Salut, c'est la Poulie, en direct sur Radio Primitive, comme tous les lundis, revue de presse hebdomadaire. On va parler aujourd'hui On aura déjà un petit son, une lecture d'article contre le SNU. Ensuite, je vous parlerai de CNews. Et puis aussi des caméras installées à Bethny. Voilà. Et puis on verra si on a un peu de temps pour autre chose. Voilà. Oui, non, bah, on va commencer par la petite texte contre le SNU.
Parfois en garde à vue, jamais au garde à vous. La promesse de Gabriel Attal de généraliser le service national universel, le SNU, à l'horizon 2026, a donné un nouveau souffle à ceux et celles qui s'organisent contre la militarisation de la jeunesse. Tour d'horizon d'un renouveau des luttes antimilitaristes menées à Marseille par le collectif Non au SNU 13. Jeudi 1er février, Marseille. Une centaine de lycéens animent à grand renfort de cris le milieu de la manifestation intersyndicale de l'éducation nationale. Une adolescente en jean, veste en cuir et kéfier rouge brandit bien haut une pancarte soignée où l'on peut lire « La jeunesse dit non au SNU ». Un autre a gribouillé au marqueur sur un bout de carton « Parfois en garde à vue, mais jamais au garde à vous ». Promesse de campagne de 2017 de Macron. L'obsession pour le réarmement moral et civique de la France a culminé fin janvier, avec l'annonce par Gabriel Attal d'une généralisation du SNU à la rentrée 2026. Le gouvernement insiste, l'opposition résiste, avec une jolie transmission générationnelle qui leur sert de moteur. Actuellement, sous la forme d'un séjour de cohésion gratuit d'une douzaine de jours, suivi d'une mission d'intérêt général, entendre 84 heures de bénévolat non rémunéré. Le SNU fonctionne depuis sa mise en place en 2019 sur la base du volontariat. Mais le spectre de la SNU généralisée, entendre obligatoire, pour les jeunes de 16 ans, plane sur la jeunesse. Ces 5 dernières années, le nombre de volontaires n'a jamais été atteint, d'où les récentes annonces. Nous explique Marie, enseignante, militante au NPA et membre du collectif Non au SNU 13, tout en distribuant des tracts à des parents d'élèves devant le lycée Saint-Charles à Marseille. En 2023, seuls 40 000 jeunes avaient participé au séjour où l'on chante la Marseillaise en uniforme sous les drapeaux. Mais dès l'année prochaine, l'instauration d'un stage obligatoire de 2 semaines pour les classes de seconde générale pourrait pousser beaucoup plus d'élèves vers le SNU. C'est l'alternative pour tous ceux qui ne trouveront pas de stage dans une entreprise ou une association, dans une période où tous les élèves cherchent en même temps, continue Marie. Sans compter qu'on leur fait croire que c'est un plus pour leur Parcoursup. Le budget d'un SNU généralisé à toute une classe d'âge, près de 2 milliards d'euros. Pourquoi on ne met pas cet argent dans l'école, s'exclame Julien, enseignant au lycée professionnel, pointant les heures de cours retirées aux élèves. Cette mesure vient à ses yeux creuser des disparités sociales qui existent déjà entre les stages kebab des jeunes dont les familles n'ont pas de relations, et les séjours linguistiques payants qui vaudront pour valider le stage obligatoire. Des ponts entre générations. Face à une parente d'élève approuvant l'initiative, les jeunes seraient mieux à apprendre la solidarité qu'à traîner dans la rue. Hervé, membre de l'Union communiste libertaire, ironise en aparté. On sait à quoi ça pouvait ressembler la solidarité dans les casernes. Presque 30 ans après la fin du service militaire obligatoire, ce sont les acteurs historiques de l'antimilitarisme, comme la Fédération nationale de la libre pensée ou l'Union pacifiste, qui ont, dès 2019, monté le collectif national Non au SNU. À Marseille, comme dans une quinzaine d'autres collectifs locaux, différentes organisations syndicales et associatives se sont réunies pour mener cette bataille sociale. Parmi elles, le Mouvement national lycéen, le MNL, un syndicat lycéen né en 2017. On s'engage. Parce qu'on est les premiers concernés, c'est logique, non? Souligne Gaspard, élève de terminale dans un lycée du centre-ville et membre du MNL. Tant que ce ne sera pas généralisé, l'opposition ne touchera pas largement les adolescents. C'est un défi. Ce ne sont pas seulement d'anciens objecteurs et insoumis, comme nous qui vont pouvoir mener cette lutte, fait remarquer Christian du collectif national non OSNU. Aux côtés d'Ilsiens mobilisés, des organisations d'enseignants et des personnes et des parents d'élèves dénoncent un glissement de la mission de formation de l'école vers le disciplinaire. Et des syndicats qui s'inquiètent des heures de travail non rémunérées et des emplois qui pourraient disparaître. C'est une rencontre intéressante. Les adultes ont des différences historiques à nous apprendre, des références historiques à nous apprendre, et nous, on leur explique pourquoi c'est important de créer un compte Instagram. Sourit Marie-Lou, lycéenne en terminale, engagée au MNL. Même si les années lycée défilent vite, elle et ses camarades sont déterminés à mettre l'opposition au SNU et à l'uniforme à l'école au cœur des blocus d'établissement. Une détermination qui réjouit Michel de la Fédération de la Libre Pensée. On voudrait nous faire croire que la jeunesse a besoin du SNU pour découvrir l'engagement, mais les jeunes sont déjà engagés. Là où le gouvernement ne les voudrait pas, dans les luttes écologistes, féministes, antiracistes, etc. Comme à l'époque du service militaire, l'enjeu n'est pas tant de permettre aux jeunes d'échapper individuellement au SNU, mais bien de s'opposer à la militarisation de la jeunesse et de la société. Outre son coût colossal et les dérives qui ont déjà marqué les premières éditions, punitions abusives, blessures, malaises et harcèlement sexuel, le principe de ce service grossièrement maquillé derrière l'idée d'un engagement civique est de créer un réservoir de force pour les corps en uniforme et de diffuser les valeurs et principes de la République. Pour le collectif non au SNU, l'idée d'une jeunesse à discipliner rappelle des heures troubles de l'histoire. Cela paraît être un outil terrifiant si l'extrême droite arrivait au pouvoir, fait remarquer Christian. L'expérience formatrice sonne plutôt comme un embrigadement. Ils veulent nous rendre conformes à ce modèle de valeurs patriotes, s'indigne Marie-Lou. Sans compter qu'à l'école ou à l'armée et la police interviennent de plus en plus pour sensibiliser. Les élèves sont déjà susceptibles de faire partie de classes engagées dans le SNU sur décision de leur professeur. Pour Gaspard, s'opposer à l'endoctrinement militaire, c'est défendre une autre vision du monde. Le réarmement sur le plan international, ça revient à se protéger plutôt que d'aller aider, alors que la coopération est essentielle, par exemple pour l'écologie. Dans un contexte où les ventes d'armes par les entreprises françaises ont atteint le record de 27 milliards d'euros en 2023, dire non au SNU, c'est aussi s'engager contre la guerre, ceux qui la font et ceux qui rêvent de la faire. Un article de Léna Rosada, qui, j'espère, inspirera d'autres jeunes et moins jeunes localement.
Et voilà, tout de suite, on va se mettre un petit peu de musique avec Right Kind of Loot de Semi-Perfect Crimes.
Fade, curse, pray.
Allez, tout de suite, on part pas très loin, puisqu'on s'en va à Bethny, où 370 000 euros ont été nécessaires pour financer la pose des caméras. Le FIPD a pris environ 60% de cette somme, apprécie le maire. Le montant de la future installation atteint que est de l'ordre de 400 000 euros. Le Fonds interministériel de prévention de la délinquance s'est réuni en janvier dernier afin d'examiner le dossier et fixer le montant de sa participation à ses frais, qui doit être communiqué prochainement. Pour se réaccorder, au CSU de Reims, les communes s'acquittent à l'année d'environ 1 600 euros par caméra. Précisons, afin qu'à la suite du raccordement au CSU, les policiers municipaux des deux communes, 4 à Bethny, 2 à Tinqueux et un troisième en cours de recrutement, auront toujours la possibilité d'accéder aux images de vidéoprotection en cas de besoin. Donc voilà, ça nous coûte cher, toutes ces petites caméras. Et en plus, c'est annuel, quoi. C'est des abonnements. C'est comme le Netflix, quoi. Voilà. Bon. Allez, et on part maintenant avec d'autres caméras. Des caméras diffusées sur la TNT de CNews. Alors ça, c'est un article de Contre-Attaque, voilà, qui parle de CNews. En France, la chaîne CNews, possédée par le milliardaire Bolloré, se charge de ce travail. C'était de faire la diffusion des idées d'extrême droite. Une étude du chercheur français Julien Labarre, diffusée par Mediapart, révèle qu'en 2023, les mots « islam » et « immigration » étaient présents 335 jours sur 365 sur les bandeaux titres de la chaîne. Autrement dit, il n'y a quasiment pas une journée sans que cette chaîne ne stigmatise une religion minoritaire dont les croyants et croyantes subissent déjà des discriminations. Quand ces bandeaux ne parlent pas de musulmans ou de musulmanes, d'autres termes apparaissent, tels que abaya, wokisme, insécurité, peur, délinquance et trafic de drogue, qui apparaissent au moins une fois tous les trois jours dans les bandeaux titres. Depuis le 7 octobre, CNews se rend intégralement complice du génocide en relayant systématiquement le narratif du gouvernement d'extrême droite israélien, déshumanisant les Palestiniens et les Palestiniennes de la même manière que l'extrême droite française déshumanise les minorités en France. En termes de pluralisme politique, il n'y a eu que 4 invités de gauche sur 79 personnalités interrogées en 6 mois. Contrairement à ce qu'affirme la chaîne, il s'agit bien d'une ligne éditoriale néo-fasciste. Récemment, CNews s'est aussi illustré par son militantisme anti-IVG en prétendant que le droit à l'avortement serait la première cause de mortalité au monde, ou en diffusant des émissions catholiques intégristes délirantes mettant en scène le combat des anges contre les démons, digne des pires shows évangélistes d'Amérique. Et le pire, c'est que c'est l'État qui offre les fréquences aux chaînes de télévision. Les fréquences dédiées à la TNT permettent à 97% de la population de recevoir ces chaînes gratuitement par une antenne et sont données par l'ARCOM, anciennement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Rien n'oblige l'État à fournir à Bolloré les fréquences qui lui permettent de toucher 70 millions de personnes. En principe, l'ARCOM doit s'assurer que les chaînes sont en capacité de répondre aux attentes d'un large public, qu'elles permettent la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturelle et qu'elles produisent de l'information. Aucun de ces critères n'est réuni pour CNews. Voilà, eh ben, on va se mettre un petit peu de musique. I feel alive when I walk in the rain. Red lights remind me that we suffer. It's hard to tell what kind of mood we're doing these days. Let me cry and scream on your frustration. Are you gonna sit and play God? Said I am the one who's threading lies. I am the one. Corrupting lies in a blackest world. In a blackest world. In a blackest world. I'll strike a match and ignite the fuse. When the sun explodes, I'll take the blame. You've been lost, neglected, and useless. And now you're getting off of my destruction. Voilà, tout de suite, on va s'écouter un petit. Alors, c'était Feckless World de Serenading Unwanted Ballads. Voilà, et donc, du coup, on va s'écouter un petit son autour du mouvement des agriculteurs de ces derniers mois. Voilà, c'est parti.
On revient avec un article de CQFD du mois de mars sur le mouvement des agriculteurs et agricultrices. Voilà, ça s'appelle Le productivisme n'a plus besoin d'agriculteurs indépendants. Depuis plusieurs semaines en France, les agriculteurs expriment leur colère dans la rue face au dépérissement de leur métier. Mais le mouvement composite est porteur de visions du monde bien différentes, voire antagonistes. Gauthier Félix, agronome et travailleur agricole, nous livre son analyse. Tribune. Depuis mi-novembre, les panneaux des villages ont commencé à être retournés dans certaines communes de France. Une idée de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, son allié jeune, du Tarn pour illustrer un message simple. On marche sur la tête. La faute à un malaise grandissant lié à l'augmentation des coûts de production dû à l'inflation, la mise en œuvre de la nouvelle politique agricole commune annoncée plus écologique et les négociations d'un énième accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, marché économique qui regroupe plusieurs pays d'Amérique latine. L'écho a porté, les colères et les frustrations se sont cristallisées, et en début d'année, les tracteurs sont sortis en nombre dans toute la France. Le mouvement est lancé, faut monter sur les tracteurs et montrer la force syndicale. Si à la FNSEA, ça fait belle lurette que les chefs n'usent plus leurs culottes sur les sièges des conseils d'administration et bouffent des verrines midi et soir, cravate au cou, chez ceux de la base, le gros des troupes boit le bouillon. Du commun malaise, on n'entend d'abord que les revendications simplistes contre les normes. La question des prix d'achat et de la distorsion de la concurrence mondiale suit juste derrière. Les fruits, les légumes, les céréales, la viande. Tout ça n'est devenu qu'une abstraction. On peut les produire ici ou là-bas, toujours moins cher car le pouvoir d'achat doit servir à autre chose et les salaires restent bas. Le modèle productiviste, si performant et vertueux, semble à bout et pourtant s'apprête à repartir de l'avant. L'environnement, ça commence à bien faire, affirmait Nicolas Sarkozy il y a 14 ans au Salon de l'agriculture. Dans une version plus lénifiante, les JA tonnent. Pas d'interdiction sans solution, avant d'obtenir un relâchement sur les ambitions de réduction des pesticides, la remise en culture déjà chère, l'assouplissement de la réglementation sur les retenues d'eau et les bâtiments d'élevage. Le productivisme, c'est ce que connaît le mieux de ce côté-ci de la profession. Elle s'est construite dessus depuis plus de 70 ans et sait défendre ses positions au risque d'un nivellement par le bas. Pourtant, la biodiversité s'effondre de manière globale, sans épargner l'agriculture. Les rendements en céréales baissent ou plafonnent, la vigne dépérit, les sols se meurent. Les animaux sont malades et vivent calfeutrés, abandonnant les paysages et la compagnie des humains. Et dans ce contexte, pas une pensée pour le cycle de l'azote, du carbone et de l'eau, dont tout ce petit monde dépend. Ça, c'est pour les grandes conférences internationales, pas pour le concret du travail. Malgré la somme des études scientifiques, des résultats techniques et des prospectives encourageantes, on n'entendra rien dans les médias ou si peu sur l'agriculture biologique qui reste largement minoritaire ou bien moins virulente dans sa pratique syndicale. Le monde agricole, si puissant dans sa force de production, mais devenu largement minoritaire à l'échelle de la population, a perdu de sa superbe comme force sociale. Les politiques, comme le public, ne connaissent plus l'exercice du métier. Près de 200 fermes disparaissent par semaine en France, et la moitié des agriculteurs et agricultrices partiront à la retraite avant 2030. Se réjouir de l'augmentation de la productivité à l'hectare par travailleur, c'est se réjouir de travailler de plus en plus seul pour faire des tâches de plus en plus déconnectées, complexes, fastidieuses. Les ouvriers et ouvrières agricoles ont aussi déserté les exploitations. Seul importe le fait que tous les gestes doivent être réglementés, enregistrés, justifiés, contrôlés. La vérité est que le système productiviste n'a dans l'absolu plus besoin d'agriculteurs indépendants. Simplement de capitaux, d'assurances et de prestataires, de services. Numérique, robotique, générique. Numérique, robotique, génétique. Voici le triptyque pour l'avenir qu'a annoncé Macron au salon de l'agriculture il y a 2 ans. La Confédération paysanne du Loir-et-Cher et le groupement d'agriculture biologique, le GAB, ne l'entendent pas de cette oreille et ont manifesté conjointement le 3 février à Blois. Ce n'était pas gagné que les deux formations se rejoignent, car on retrouve de toutes les couleurs syndicales au sein des GAB. Il fallait néanmoins porter une parole dans l'espace public, dire que l'on pouvait sortir de la crise par le haut, installer 1 million de paysans et de paysannes, pratiquer l'agriculture biologique, relocaliser et désintensifier la production pour que les sols, l'eau, les animaux, les gens respirent. Rien de neuf dans l'argumentaire, mais la confirmation que face au mur, ces idées, c'est pas des conneries. Alors oui, il y a des mesures d'urgence à prendre, mais encore plus sûrement un travail de fond à entreprendre. À Blois, 500 personnes qui défilent, encadrées par quelques tracteurs, pèsent moins que les engins qui, la semaine précédente, mettaient la pression sur l'Office français de la biodiversité, avec tas de fumier et tout le bazar. C'est en rassemblant plus largement et en nombre une diversité d'acteurs qu'on pourra peser dans le rapport de force et remettre les questions structurelles au cœur du sujet. Voilà une chronique, une tribune écrite par Gauthier Félix.
Ok, mais ben on va s'écouter tout de suite. Complete Disorder. Petit article du site opost.fr qui se met à faire un peu d'enquête. Et donc là, enquête qui découvre des néo-nazis dans la police. Pas très. Hein, c'est pas nouveau, quoi. Voilà, mars 2020, un fonctionnaire de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de Paris fait une embarrassante découverte. Une casquette ornée d'une croix gammée trône dans le bureau d'un de ses collègues. À l'époque, directeur du service, Christian Sainte est informé. Depuis, il a été promu Big Boss de la police judiciaire nationale. À au poste adjoint Christian Sainte, le directeur de la DRPJ de Paris, au moment des faits, il confirme être à l'origine d'une enquête administrative dans laquelle des explications étaient sollicitées auprès de l'intéressé et de ses collègues de travail Conclusion de la hiérarchie, la présence de la réplique de la casquette SS n'a pas justifié de prise de sanction. Voilà, bon, il y a tout un article qui raconte qu'ils n'ont rien fait. Et qu'il y a aussi, dans la police municipale de Orléans, un policier qui se trimballe avec un soleil noir, donc un symbole nazi, évidemment, voilà, qui est un symbole clairement nazi, même s'ils ont tenté de faire croire que les nazis n'avaient fait que le reprendre, en fait, hein, il est vraiment inventé par les nazis. Et voilà, et puis, bah, je vais vous laisser, et puis je vous dirai à la semaine prochaine, hein, sur cette nouvelle terrible. Allez, à la semaine prochaine.
Militarisé, robotisé.